Bonjour à tous.
Bon, c'est vrai que j'étais inquiet avant de monter ici. Je me demandais si j'allais passer dessous. Et puis après, j'ai vu mon frère Yota et j'étais rassuré. Voilà, merci pour cette présentation, Aaron. Merci. Alors, moi, c'est Aurélien Lang. Je suis marié à Grenoble. J'habite à Grenoble. Je suis marié à Chloé. Pas l'inverse. Et j'ai trois garçons et je suis reconnaissant d'être avec vous ce matin, reconnaissant pour le lien fraternel que nous avons en Jésus-Christ et un lien fraternel qui est manifesté par des relations concrètes puisque en fait plusieurs membres de cette église connaissent personnellement des membres de l'église Grenoble-Est où je sers en tant que responsable et on est reconnaissant pour tous ces liens. Et sans transition aucune, j'aimerais vous inviter à prendre une Bible et à tourner les pages. On ne va pas aller très loin, on va aller dans Exode. Je priais pour votre assemblée et je voulais vous inviter à lire avec moi Exode chapitre 3 et chapitre 4 pour un message de ce matin. J'espère qu'il sera encourageant pour chacun d'entre nous. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre 3 et 4. En fait, ce que je vous propose, c'est que je vais lire en grande partie le chapitre 3 et puis je vais résumer ensuite la suite du passage et on finira au verset 18 du chapitre 4. Et puis, mais tout le message vient de ce texte d'Exode chapitre 3 qui commence avec Moïse. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Oh, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ?» Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Je résume à partir du verset 15. Dieu récapitule à Moïse le plan qu'il lui donne pour aller secourir les Israélites en Égypte. Moïse n'est pas encore rassuré et il a encore plusieurs objections, mais Dieu le rassure encore en lui demandant de jeter son bâton par terre qui se transforme en serpent, puis aussi en mettant sa main sur sa poitrine qui devient de la lèpre et puis qui disparaît après. Mais Moïse n'est pas encore rassuré, alors Moïse dit qu'il n'est pas apte à parler. Il n'est pas doué, mais en fait, Dieu va lui donner un équipier en or, son frère Aaron, pour l'aider dans cette tâche de communication. Et puis je termine avec 18, chapitre 4, verset 18. Moïse s'en alla de retour chez son beau-père Jéthro. Il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y, en toute tranquillité. » Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Alors c'est vrai, je viens de Grenoble et on a quelques similarités avec la jolie ville d'Antibes. Nous, c'est la montagne, vous, c'est la mer, mais c'est aussi un pôle scientifique. Les scientifiques de Grenoble, je ne sais pas pour ceux d'Antibes, mais sont particulièrement friands de montagne. Ils aiment la randonnée, ils aiment le trail, ils aiment le ski, ils aiment le course à pied. Bon, si vous êtes amateur de ces activités, vous aussi, j'espère que vous êtes en tout cas bien préparé physiquement. Parce que marcher, courir prend beaucoup d'énergie. Au tout début, le corps libère des substances chimiques qu'on appelle des endorphines qui fournissent l'énergie dont on a besoin pour bouger. La température du corps augmente, les calories commencent à brûler et ça génère quoi ? De la transpiration. Pour continuer d'avancer, le corps brûle tout ce qu'il trouve, les muscles, mais aussi les graisses. Et après un certain temps, la fatigue ralentit le corps et lui donne envie de s'arrêter. Alors, ce qui est vrai du sport est vrai pour presque tout dans la vie. Désolé si mon introduction vous a déjà fatigué. Tout ce qu'on fait dans la vie nécessite effort, nécessite des ressources, et le service n'est pas exclu. Alors que faire ? Que faire quand on a besoin de ressources ? Où aller pour faire le plein d'énergie ? Si je vous parle de ça, c'est parce que Moïse, le grand sauveur d'Israël, a lui besoin de ressources. Les choses ne se sont pas passées comme il espérait. Son peuple est opprimé en Égypte. Mais après avoir tué un Égyptien et avoir été rejeté par les siens, il part s'installer à Madian, à des kilomètres loin de l'Égypte, pour devenir un berger. Et c'est là qu'au verset 2, on apprend que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur cette montagne ? Moïse rencontre pour la première fois Dieu. Et il y a plein de choses à apprendre de cette rencontre. La première, c'est que là, sur la montagne, Dieu appelle Moïse et l'envoie. Vous avez ça à partir du verset 7, qui est un peu le teaser du livre de l'Exode. Ça, ce sont les versets programmatiques de tout le livre. « Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je viens maintenant te délivrer, et devine quoi ? C'est toi que j'ai choisi. » Or, qu'est-ce qu'on a à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 4, verset 18 ? Ben, Moïse se sent pas. Face à la demande de service, face au défi que cela représente, face à l'effort, l'homme providentiel estime qu'il n'a pas les ressources pour accomplir la tâche. Que faire quand on a besoin de ressources ? Où aller pour faire le plein d'énergie ? Bon, pour le coureur, la réponse est simple. Hein. C'est entraînement, un ravitaillement et la boisson que j'ai découvert ces dernières années, Isostar. Mais pour le parent qui est exténué à la fin d'une journée de travail, et qui doit enchaîner avec les heures extrêmes du 17-19. Ça, c'est une montagne à gravir presque chaque jour. Pour celui ou celle à qui on demande d'accomplir une tâche au travail pour laquelle il sent que c'est impossible, il se sent assailli par le doute. Suis-je la bonne personne? Pour celui ou celle qui doit servir dans l'Église et qui ne le sent pas, qu'est-ce qu'on fait? On met différents mots derrière cette problématique. Hein. Fatigue, syndrome de l'imposteur, insécurité, complexe d'infériorité. La réalité est la même. On manque de ressources pour servir le Dieu qui appelle et qui envoie. Et c'est là que l'échange entre Dieu et Moïse prend un étonnant relief et nous donne la réponse à notre question. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait quand le pneu est à plat? Quand le réservoir d'énergie est vide ou quand on a l'impression de ne pas être doué? Le dialogue entre Moïse et Dieu s'articule autour de 5 objections de Moïse, mais vous savez que les prédications ont la fâcheuse tendance de faire 3 points. Alors j'ai réduit leur nombre à 3. Désolé, on a tous des déformations professionnelles. Dieu dit « Je t'envoie » et Moïse répond premièrement « Qui ? Moi ?» Verset 11 « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Alors c'est jamais une bonne idée de regarder à soi pour constater si oui ou non on est l'homme ou la femme que Dieu a créé et apte à la tâche. Parce que qu'est-ce qu'on trouve quand on regarde à soi, quand on fait ça? C'est soit un sentiment de surpositionnement, soit un sentiment de sous-positionnement. Pour certains, ça va être plutôt la tendance à se surestimer, pour d'autres, à se sous-estimer. Et pour certains, leur estime de soi est digne d'un match de Roland-Garros ou de l'US Open, ça fait des allers-retours. Ça dépend des circonstances, des domaines, des personnes avec qui elles sont. Peut-être qu'on pourrait dire qu'avant son départ à Madian, Moïse luttait avec la tendance de se surpositionner. En fait, il avait tout pour lui, ce gars. Élevé dans la famille la plus haute placée de l'Égypte, il a fait les meilleures écoles, il a fait les meilleures formations professionnelles, il est doué en leadership, il avait tout pour réussir. Mais que se passe-t-il? Bah, il tue un Égyptien et il se fait rejeter par son peuple. Alors, j'ai lu un excellent commentaire cette semaine qui explique ce qui se passe dans la tête de Moïse à ce moment-là. Puisqu'en Actes chapitre 7, Étienne, en commentateur inspiré, dit ceci, et je le cite, « Moïse était âgé de 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères les Israélites. Il en a vu qu'on maltraitait, hein ? Il a pris sa défense et pour venger l'homme malmené a frappé l'Égyptien. » Écoutez bien, ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensaient-ils, mais ils ne l'ont pas compris. Fin de citation. Alors Moïse souffrait-il d'un complexe de Messie? Peut-être. Mais 40 ans plus tard, qui est-ce qu'on découvre sur cette montagne? Dieu l'appelle et l'envoie, et on a un autre Moïse qui a l'opposé et qui souffre d'insécurité chronique. Complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Quelle que soit notre tendance, la réponse que Dieu donne ici coupe le mal à la racine. Moïse, je serai avec toi. Moïse, tu m'as pas écouté. Hein. C'est le matin, tu es peut-être encore endormi en lisant ta Bible. Reprends du café, trempe ta tartine. Mais écoute, j'ai dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Bah, qu'est-ce que ça devrait produire chez Moïse? Bah, ça met fin au complexe d'infériorité. C'est, je suis avec toi. Et puis le... C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'envoie. Mets fin aussi au complexe de supériorité, parce que c'est qui le facteur X? Qui est le Messie? Ben, c'est pas Moïse, c'est je. C'est j'ai vu la souffrance, j'ai entendu ses cris, je connais ses douleurs et je suis descendu. Moïse, t'es pas en mission solo là. Oui, ma présence est garantie, c'est moi qui t'envoie. Et je vais même te donner une preuve que c'est moi qui t'envoie, parce qu'on va se retrouver, toi et moi. Dans quelques semaines, quand tu reviendras ici, après avoir suivi sur ton GPS comment revenir, on se retrouvera sur cette montagne à Sinaï. Alors tu sauras que c'est moi qui conduis le peuple.
Alors, convaincu?
Bah pas vraiment. Parce que Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple, et Moïse répond ensuite, deuxièmement, « Bah tu es qui, toi ?» Verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Alors, avant de voir pourquoi cette réponse, c'est de la dynamite, notez que Dieu ne court-circuite pas les émotions de son serviteur. Il n'y a pas de « mais si, ça va le faire, allez, ressaisis-toi. » Non, Dieu est patient. Dieu est gracieux. Il se réveille toujours plus pour amener son serviteur à réaliser qui il est vraiment. Comme avec son ancêtre, Abraham, à qui Dieu a demandé de contempler le ciel étoilé pour lui faire réaliser l'immensité de sa grandeur. Dieu prend le temps ici de se révéler à son serviteur pour le préparer à le servir. Et c'est cette phrase, « Je suis celui qui est la voie lactée de Moïse » pour lui faire réaliser qui est celui qui l'appelle et l'envoie. « Je suis celui qui est » veut dire plusieurs choses. Les experts signalent que le verbe « être » ici renvoie à l'action sans notion de temps. Dieu est. Dieu est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il ne dépend de rien ni de personne. Personne n'a causé Dieu, mais Dieu a causé toute chose. Dieu est. Dieu est une super source abondante de vitalité. Il ne perd jamais d'énergie, il ne dort jamais, il ne dépose jamais d'arrêt maladie, il ne manque jamais de gaz pour fonctionner. Un jour, notre soleil cessera de fonctionner. Lui, il a une date de péremption, hein. Pas Dieu. On parle parfois ici de l'acéité de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Un beau mot pour le Scrabble. Ça ne rapporte pas beaucoup de points, mais... Acéité. Dieu ne dépend de rien pour être, mais nous dépendons de lui pour tout. Est-ce que vous commencez à voir la voie lactée? Dans Genèse, Dieu dit à Abraham, « Abraham, ça va être grandiose qu'on va faire, ce que tu vas faire. Compte les étoiles. Combien t'en comptes ?» Alors, 1, 2, 3, 4, puis 35, 36. Ah non, celle-là, j'ai déjà compté. Bon, bah, je recommence. Alors, à vérifier avec les meilleurs scientifiques, mais il aurait pu y passer beaucoup de temps, hein, parce qu'a priori, il y a des milliards d'étoiles. Donc, 1, avec beaucoup de zéros derrière. Et vous savez aussi que notre galaxie, cette voie lactée, finalement, n'en est qu'une. Parmi peut-être des millions, des milliards d'autres dans l'univers. Alors réfléchissez-y un instant à toute cette grandeur. Ça donne le tournis. Mais cerise sur le gâteau, bah Dieu est encore plus grand que tout ça. Moïse, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je suis t'envoie. Enfin, troisièmement, Dieu envoie Moïse pour une mission d'exfiltration, mais il répond, en suis-je vraiment capable? Et dans les derniers versets, on voit que l'homme providentiel excède dans l'art de la dérobade et manque d'impatienter Dieu. Alors Dieu lui donne des preuves tangibles de sa présence, un bâton qui se transforme en serpent, la main de Moïse qui est couverte de lèpre et guérit instantanément. Et chapitre 4, verset 10. « Oh Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche embarrassée. » Vous voulez apprendre à prier? Regardez comment Moïse parle à Dieu et comment Dieu parle avec lui. « Moïse, je sais tout ça. C'est moi qui t'ai créé quand même, après tout.
Verset 13.
Ah, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Et là, Dieu sort le Joker, verset 14. N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais que lui, il parlera facilement. Moïse, tu es pas seul. Tu es bien équipé pour la tâche. Tu as toute l'aide dont tu as besoin. Donc, vas-y. Dieu appelle, Dieu envoie et Dieu équipe. Dieu donne tout ce qui est nécessaire à son serviteur pour accomplir le service demandé. Il ne manque rien. Il donne des preuves tangibles. Il donne les dons dont on a besoin. Il nous accorde les frères et sœurs pour nous soutenir dans la tâche. Le serviteur est massivement équipé pour la tâche demandée. Alors, on fait la synthèse. Quel est le remède donné par Dieu aux anxieux, à ceux qui ont un complexe d'infériorité ou celles qui sont fatiguées ou ne se sentent pas douées? Réponse, la toute suffisance de Dieu. Dans la foi chrétienne, on ne rencontre pas des techniques, des pratiques ou des rites pour aller mieux, mais une personne vivante, active, toute suffisante. Il n'est pas un Dieu de la taille d'un hobbit ou d'un pygmée. Il est un Dieu tout-puissant, éternel, plus grand que la Voie lactée, plus puissant qu'un réacteur nucléaire. Voilà qui est « Je suis ». Et c'est pour ça que la toute-suffisance de Dieu met fin au complexe de supériorité et d'infériorité. Quand on comprend enfin qui appelle, qui envoie, qui équipe, qu'est-ce qu'on observe ? C'est la fin des problèmes de ressources. Moïse en souffrait. Et peut-être c'est notre cas aussi ce matin. Quand on dit « Je ne suis pas au niveau », Dieu dit « Je suis ». Quand on dit « Je ne suis pas convaincant », Dieu dit « Je suis ». Quand on dit « Je ne suis pas au niveau », Dieu dit « Je suis ». Et tout trouve son sens pour nous en tant que chrétiens quand des années plus tard, un homme interrogé par des personnes très critiques à la question « Qui es-tu ?» offre la réponse « Avant Abraham, je suis Jésus-Christ et je suis patient, bienveillant, doux, humble de cœur, ne court-circuite pas nos émotions. » Et juste avant son ascension finale sur une montagne, il nous appelle et il nous envoie aussi. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le tombeau est vide. Je suis avec vous par le Saint-Esprit. Les frères et sœurs vous entourent. Alors maintenant, allez-y. » Et on est tous concernés parce que des services pour Dieu, on va en accomplir plein pour lui encore cette année. Ce message, ce n'est pas que pour les personnes qui sont des plaintants ou des personnes qui peuvent se mettre devant de temps en temps. C'est pour tous. Chez les chrétiens, on appelle ça le sacerdoce universel des croyants. Et on prie que ce ne soit pas théorique dans l'Église, mais réel. Chacun, chacune a une vocation. Chacun, chacune a un ministère. Chacun, chacune a un service pour Dieu grâce à Jésus-Christ. Sur notre front à tous, il est écrit « consacré à Dieu pour son service ». Et que ce soit dans la société, dans la famille, au sein de l'Église, on est tous concernés. De même que Dieu a appelé et envoyé Moïse à son service, on est parfois tenté de résister à cet appel pour différentes raisons. Mais Dieu envoie Moïse. Moïse ne veut pas y aller. De même, Dieu nous envoie et parfois nous aussi, on ne veut pas y aller. Et donc, on a besoin, comme Moïse, de revenir à qui est le Dieu qui nous envoie. On a besoin de revenir à Jésus, qui est avec nous, qui est tout suffisant. Vous savez, il y a un élément du texte que j'ai volontairement laissé de côté jusqu'à présent pour finir avec, et qui est quand même important. C'est ce fameux buisson ardent. Il est un peu spécial, ce buisson. Par deux fois, l'auteur il fait remarquer qu'il ne se consume pas. Verset 2. « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » Le buisson qui ne brûle pas nous rappelle qui ? Nous rappelle la toute suffisance de Dieu. Pas besoin de bois, pas besoin de carburant, la puissance dépend de son être même. L'Éternel ne brûle jamais la chandelle par les deux bouts. La toute puissance, mais aussi la sensation du feu, la chaleur, l'odeur, les crépitements, les flammes qui dansent. Tout ça, ça évoque quoi ? Une réelle expérience de Dieu. À la fin, Moïse part. Mais sur cette montagne, Moïse n'est pas convaincu par une idée de Dieu, mais par son expérience de Dieu. Tout comme Moïse a été honnête et n'a rien perdu de sa dignité et de sa valeur, on perd rien à être honnête face à Dieu. Exprimons-lui nos craintes. Reconnaissons nos difficultés. Faisons appel à lui qui nous appelle à son service. On a besoin de courage, d'amour et de ressources pour servir Dieu qui nous appelle et nous envoie. Venons à lui. Redécouvrons-le. Ne sortons pas de sa présence avant d'avoir goûté pour nous-mêmes à sa toute suffisance. Dieu est un réacteur nucléaire. La question qui reste pour nous, c'est est-ce que nous allons nous brancher à lui ? Je vous invite à prier. Père éternel, je te prie que dans ta grâce, tu dessies nos cieux afin que nous puissions reconstater, regoûter, redécouvrir à quel point tu es un Dieu puissant, à quel point tu es un Dieu qui appelle, qui envoie et qui ne nous laisse pas sans ressources. Je prie que tu nous aides chacun d'entre nous dans les différentes vocations que nous avons, dans les différents services, ministères auxquels tu nous as appelés, que dans chacun de ces rôles et de ces responsabilités que tu nous as donnés, nous puissions faire l'expérience de ta toute suffisance, repartir ressourcés, renouvelés pour le service et pour le bien du plus grand nombre. Au nom de Jésus. Amen.